Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature.
Le courage enthousiaste des enfants contribue à l'autonomie des parents. Nabil Alami.
Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans dans deux jours du coup. Je suis née à Paris et j'ai grandi à Paris et ça fait 3 ans que j'habite à Bruxelles où je suis consultante en sécurité industrielle dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Je suis du coup d'origine nigérienne, donc du Niger. Mes deux parents sont nés là-bas et ils sont arrivés en France dans les années 90.
Alors moi c'est Mélanie, j'ai 31 ans, j'habite en région parisienne, je suis mariée, j'ai un petit bébé, je suis d'origine, donc je suis de nationalité française, je suis née à Paris et j'ai vécu toute ma vie en France, mais je suis d'origine asiatique, ma mère est vietnamienne. Et mon père est chinois cantonais, tous les deux du Laos.
Au niveau de ma famille, donc il faut savoir déjà qu'il y a uniquement mes parents et mes deux sœurs qui sont en France. Donc tout le reste de ma famille est au Niger. Avec mes parents et mes sœurs, on est extrêmement proches. Et par rapport à ça, en grandissant, moi, j'ai pas forcément ressenti une très, très grande pression par rapport aux études de la part de mes parents. En partie parce que je savais vers quel domaine j'allais me diriger dans mes études. Mais je sais que ça n'a pas été forcément le cas pour mes sœurs, par exemple, qui ont, je pense, un avis différent sur la question. C'était plus une pression que je me mettais à moi-même, en fait.
J'ai suivi, en fait, des études assez sérieuses. J'ai fait du droit, j'ai fait une école d'avocat, je suis devenue avocate. Et ensuite, j'ai un petit peu bifurqué parce que je me suis mise au podcast. J'ai commencé à préparer mes parents et ma famille en leur disant « Vous savez, je ne serai pas avocate toute ma vie. » Et mon père, ça le faisait rire parce qu'il était persuadé que c'était une blague, en fait, que je le faisais marcher. Et là, pour le coup, c'était pas une blague. Et donc, il prenait ça à la rigolade. Donc, il s'est dit « Ça ne va jamais arriver. » Mais par contre, il rajoutait quand même « Si jamais c'est vrai, c'est une catastrophe, donc le fais pas, Mélanie. »
Donc, en fait, quand je suis née en France... pendant les 6 premières années de ma vie, j'ai vécu dans un logement de 12 mètres carrés avec mes parents et ma grande sœur. J'ai encore des souvenirs très précis de cet endroit qui était une chambre d'étudiants à la base. Les sanitaires étaient sur le palier, il y avait régulièrement des coupures de courant. Donc c'est quelque chose qui forge un peu une histoire quand même.
Mon père est chauffeur de taxi. Et en fait, il faut savoir qu'il dit à tous ses clients, chacun des clients qui rentrent dans son taxi, « Vous savez, ma fille, elle est avocate. » parce qu'il est fier, en fait. Et moi, ça me rendait fière aussi, ça me faisait plaisir. Mais je me suis dit, voilà, il faut le préparer parce que je ne serai pas avocate toute ma vie, je ne sais pas ce que je ferai après. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas aussi bien dans la hiérarchie du succès pour lui. Leur opinion compte beaucoup. Je pense qu'elle compte pour tout le monde, mais c'est vrai que dans ce contexte-là, encore plus, et t'as pas envie de les décevoir, t'as pas envie qu'ils se disent « qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi elle a fait ça, est-ce que c'est un échec en fait ? Est-ce que c'est un échec parce que c'était une réussite sociale et puis une redescente, redescente sociale ? Finalement, c'en est pas une, hein, c'est pas... moi je sais que c'en est pas un, c'est plutôt un épanouissement personnel, mais c'est vrai que pour cette génération-là, je sais qu'ils parlent beaucoup entre eux. Alors, je sais pas les autres origines, mais en tout cas, les Asiatiques, c'est beaucoup. Vous savez, mon fils, il fait ça. Ah, bah, moi, mon fils et ma fille. Et il compare, en fait. Et moi, il a une mutuelle. Et donc, c'est un peu à qui a le meilleur, la meilleure situation. Donc, c'est vrai que ma situation impactait la leur, en quelque sorte.
Je pense que j'ai atteint une forme de réussite par rapport aux exigences que je m'étais fixées à moi-même un peu en secret. Dans le sens où je sais que si j'étais née ailleurs, je n'aurais pas eu les mêmes chances que j'ai eues en France.
Au quotidien, ce qui est certain, et depuis toute petite, c'est que des remarques comme « finis ton assiette parce que nous, on n'avait rien. Toi, tu as de la chance parce que t'as un lit, en fait, pour dormir. » Ça, j'entendais tout le temps, en fait, toute mon enfance. C'était « Ah, vous avez de la chance, vous, vous avez des jouets, vous avez ceci, cela. » Et en fait, si on réclamait quoi que ce soit, par exemple, je sais pas, tu vas à la boulangerie, tu vois des chewing-gums, t'as envie d'acheter des chewing-gums parce que ça te donne envie, t'es un enfant, et puis il y a des bonbons et tout. Ben non, en fait, tu vas pas gâcher de l'argent qu'on a durement gagné. L'argent, on le dépense pour les choses essentielles, pour les choses utiles.
Et à partir de là, en fait, dans ma construction personnelle, j'ai tout fait pour arriver là où je voulais aller. Pour moi, c'est passé par les études, avec derrière aussi le soutien de mes parents qui m'ont encouragé à faire des études comme beaucoup d'enfants d'immigrés.
Tout ce qui était superflu, pour moi, c'était normal de ne pas l'avoir parce que déjà, j'avais de la chance d'avoir un toit, une maison, mes parents, ma famille et un lit. Et puis en plus, j'avais le confort parce que j'avais pas faim. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Tu n'as pas faim, tu as de la chance parce que tu manges à ta faim, tu manges tout ce que tu veux. Et tu as même des gâteaux d'anniversaire. Et j'avais plus, en fait, j'avais le luxe. J'avais des choses qu'on n'a pas besoin, en fait, pour juste survivre, en fait. Maintenant, je me rends compte que c'était des choses pour survivre. Mais en fait, c'est vrai que la norme pour mes parents, c'était, enfin, surtout pour ma mère, puisque je vivais avec elle, c'était plutôt, voilà, pour survivre, on a besoin de telle et telle chose. Donc, manger un minimum et avoir un toit. Et nous, on l'avait, donc c'était déjà énorme. Et ensuite, tout ce qui peut être en plus, ben, c'était super, mais t'en as pas besoin, et si on te le donne, ben, c'est déjà assez. Donc, j'ai grandi déjà dans cet environnement où tout était luxe, en fait. Si c'était pas juste dormir ou manger, c'était du luxe. En fait, je crois que l'idée, c'était, vous pouvez tout faire, puisque vous avez tout. Et donc, c'était pas possible de ne pas réussir quoi que ce soit. Par exemple, si j'avais décidé d'être astronaute, je devais pouvoir le faire, c'était juste une question de travail le reste. J'ai jamais eu cette idée de on est bon dans un domaine ou pas, c'est si tu travailles, tu peux tout faire. Et donc si tu n'y arrives pas, c'est que t'as pas fait assez d'efforts.
Est-ce que ça t'a fait culpabiliser ?
Alors non, j'ai pas culpabilisé, parce que je me suis dit que... Bah, parce qu'elle nous culpabilisait pas non plus, en fait, elle nous disait c'est bien, c'est une bonne chose, je suis contente pour vous, en fait, moi ça me rend heureuse que vous ayez tout ça, parce que... C'est ce qu'il faut. Elle n'était pas jalouse, elle ne nous disait pas « Oh là là, vous avez ça, moi je ne l'ai pas eu ». Par contre, ça m'a donné une pression, parce que je me suis sentie obligée, en fait, de réussir. Sinon, ça voulait dire que j'étais pas assez, je faisais pas assez d'efforts et je m'en serais voulu. J'aurais eu honte, je pense, vis-à-vis d'elle, de pas avoir fait assez d'efforts, parce que ça aurait été ma faute, en fait.
Thank you.
Le reste de ma famille est au Niger et c'est vrai que ça met une sorte de pression mais qui n'est pas forcément dite ou palpable tous les jours. Mais déjà j'ai une très grande famille au Niger puisque mes deux grands-pères étaient polygames, donc ce qui fait que techniquement j'ai six grands-mères avec du coup tous les enfants qui en découle, donc ça fait beaucoup. Et je sais par exemple que ça représente déjà une charge en termes financiers pour mes parents parce que voilà, ils sont en France et ils se doivent d'aider leur famille. Et je sais que c'est une charge qui un jour reviendra sur moi, sur ma sœur. C'est jamais quelque chose de formulé, mais comment dire, moi j'ai vu mes parents trimer pour gagner de l'argent, en envoyer à leurs parents quand ils étaient encore vivants et puis au reste de la famille. Finalement, c'est comme un accord tacite qui est non dit et où on sait ce qu'on devra faire en fait. Je vais devoir aider.
Le fait même d'être enfant d'immigré, t'as envie de rendre fiers tes parents et qu'ils se disent j'ai bien fait de leur donner cette chance parce qu'ils l'ont prise, ils ont pris cette opportunité de réussir dans son nouveau pays. Alors ce pays, c'est le nôtre, hein. Mais en quelque sorte, on n'y est pas légitime. Enfin, c'est comme si on n'était pas légitime de ne rien faire ou alors de vaquer à avoir des activités un peu trop oisives, en fait. Il faut qu'on fasse quelque chose de sérieux. Et ce qui est sérieux, souvent, c'est devenir médecin, avocat, ingénieur, quelque chose d'utile à la société et puis assez prestigieux aussi socialement.
Si, disons, je reprends tout mon arbre généalogique. Mes grands-parents étaient analphabètes. Mes parents ont réussi à faire des études, mais ils viennent d'un milieu très, très modeste. Et moi, aujourd'hui, je gagne ma vie confortablement. J'arrive à avoir un niveau de confort qui me plaît pour le moment. Et donc, dans ce sens-là, oui, j'ai réussi. Après, est-ce que je suis arrivée au dernier échelon de la réussite, ça, je ne sais pas encore, on verra.
On veut que nos parents soient fiers, en fait, de ce qu'on devient, en fait, parce qu'ils ont fait tellement, c'était tellement dur, c'était tellement de sacrifices pour les parents de venir en France, et souvent pour donner un avenir meilleur à leurs enfants. Donc il faut que cet avenir soit bon pour les enfants. Et s'il n'est pas bon, c'est un peu ne pas rendre hommage à leur démarche, en fait.
C'est quoi le dernier échelon de la réussite ?
Je ne sais pas, je pense qu'on le sait une fois qu'on y est arrivé, donc je ne sais pas.
Si tu es satisfaite de ta situation actuelle, ça devrait suffire, non?
Oui, bonne question. Peut-être que je ne suis pas encore arrivée au niveau de réussite que j'aimerais, parce que pour moi, on va dire le dernier niveau que je vois à l'heure actuelle, ce serait de pouvoir mettre mes parents et ma famille vraiment à l'abri de tout en termes financiers, on va dire, de pouvoir leur offrir un niveau optimal de confort, dans le sens où je sais que l'argent ne fait pas le bonheur, clairement, mais l'argent fait le confort. Du coup, voilà, ce serait ça. Je sais pas si ce serait pouvoir leur acheter une maison ou les mettre à l'abri, en tout cas, comme ils ont pu prendre soin de nous, pouvoir leur redonner tout ce qu'ils nous ont donné.
Est-ce que tu envisagerais d'accueillir tes parents chez toi à l'âge de la retraite, par exemple?
Je vois mes parents vieillir et je suis persuadée que la maison de retraite, c'est un truc qu'ils ne connaîtront jamais, quoi. Je me verrais pas les mettre dans, enfin les placer comme on dit dans ce genre d'établissement parce que c'est vraiment juste pas quelque chose que j'envisage en fait. Je sais que je suis là, je sais que j'ai ma grande sœur aussi et que il y a des solutions à tout problème et que je les verrais pas passer par cette case-là en fait.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir que tu les avais déçus?
Oui, bah dans la vie professionnelle, du coup, non, sauf papa, maman, je ne veux plus être avocate. Mais dans la vie personnelle, si, c'est arrivé. Alors, c'est pas une déception, mais c'était un moment où il y a eu un décalage entre leurs attentes et ce que je leur ai proposé. En fait, je suis. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les familles asiatiques, mais en tout cas, dans la mienne, c'était les études avant tout. Et puis plus tard. Quand tu auras fini tes études, diplômé, etc., tu pourras t'intéresser aux garçons. Et donc, genre à 25, 30 ans, voilà, ça serait bien. Et en fait, donc j'ai rencontré moi mon premier, enfin, vrai amoureux à 17 ans. Et bon, je l'ai pas dit à mon père parce que là, c'était pas possible. Mais du coup, ma mère était obligée de le savoir puisque après, bah, pour le voir, il fallait que je demande l'autorisation de sortir. Et là, il y a eu quand même un truc de 1, pourquoi tu t'intéresses aux garçons? Parce qu'en fait, c'est pas du tout un sujet. Enfin, tu te. Voilà. Ouais, non, mais tu te dévergondes, en fait, c'est pas bien. Et deuxièmement, il est français. Alors, moi aussi, je suis française, mais il est pas asiatique. Et ça, c'était aussi un truc que je savais pas du tout. Enfin, on n'en avait jamais parlé. Elle m'avait jamais dit, je veux que tu sois avec un asiatique. Mais je pense qu'elle s'en est rendue compte au moment où je lui ai présenté un français. Qu'elle aurait bien aimé qu'il soit plutôt vietnamien, parce que voilà, il aurait mieux compris notre culture, elle aurait pu parler avec ses parents, il y aurait une autre relation qui se serait créée. Que là, ça faisait vraiment, là, tu es avec un étranger que je ne connais pas sa culture, c'est compliqué, et en plus, tu as 17 ans, c'est jeune, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi?
Bây giờ tôi nói ông nghe, ông cứ thoải mái lên đi. Đời tôi cũng khổ đấy, ông cũng khổ làm gì phải suy như thế. Ai cũng có mấy lúc khó, mấy lúc đeo yên thân, mấy lúc buồn, mấy lúc sợ lo người khác chết phân. Cuộc đời thì vẫn còn dài, sau này rồi ai ân ai. Tôi thì nghỉ cái đầu một tí, tôi tính cái chuyện tương lai. Thằng nào bẩn, thằng nào chơi xấu, ắt sẽ bị trời đày. Ngồi xuống đây anh em mình hỏa hết cái cuộc đời này. Hôm qua đọc báo thêm một cô giáo ngoại tình với bố học sinh, thêm tiền về nuôi thằng em lớp 9 và một ông bố thần kinh. Có anh thơ cả bị ô tô cán đúng ngày thanh toán công trình. Có một bà mẹ và bốn đứa con đã mất đi một gia đình. Thế nên ông ạ, đời anh em vẫn còn sung sướng, vẫn làm vẫn chơi, còn gia đình và còn chỉ hướng. Tiền của ông nó ở ngoài kia, thế nên đừng có nằm mãi trên giường. Ông mua lớn muốn khôn thì thôi, anh xem may mắn là chuyện bất thường. Yo. And now we'll try to let it be, although it's hard for us to see.
chanting away with the melody. Let it sing and set it free. And now I'm trying to let it be. Although it's hard for us to see, chanting away with the melody. That's where we're meant to be.
Ông không biết, ông không biết, ông không biết đâu. Ông không biết, ông không biết, ông không biết đâu. Ông không biết, ông không biết, ông không biết. Đành lòng mà sống với thế gian vô tình vì không ai ta thiết nhau. Ông không biết, ông không biết đâu. Ông không biết, ông không biết đâu. Ông không biết, ông không biết, ông không biết. Đành lòng mà sống với dấu gian bên đời vì không ai ta thiết nhau. Come on.
J'ai dû en faire deux fois plus avec deux fois moins parce que clairement j'avais deux fois moins. Mes parents, ils étaient à l'époque très, très modestes, comme je l'ai dit. Et moi, j'avais des amis où j'allais chez eux ou chez elles et je voyais. En fait, moi, c'était pas forcément les, enfin voilà, les jouets, ce genre de choses très très matérielles. C'était vraiment l'espace. Moi, j'avais ma meilleure amie en maternelle. Elle avait une chambre à elle qui était absolument énorme à l'époque pour moi. Et je me disais, waouh, elle a son espace à elle en fait. Et ça, c'était un truc que je connaissais pas moi.
Mes parents, ils ont fait le choix d'avoir vraiment le temps pour nous. Donc ils étaient là à la maison. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on avait cette relation proche, comme je peux le voir dans certaines familles françaises ou autres. On n'avait pas de lien. Enfin, émotionnellement, c'était difficile. Par exemple, on ne s'est jamais dit je t'aime. Enfin, ça c'est c'est juste inimaginable. Ils étaient présents et là, mais en fait, on a eu une éducation très stricte. On avait vraiment ce truc de il y a les parents, c'est la hiérarchie de la famille. Et ensuite, il y a les enfants qui écoutent et qui obéissent. Et en fait, on n'avait pas cette relation que je vois et que j'aimerais instaurer maintenant que j'ai un fils, en fait.
Ce côté paradoxal où bah, l'école t'offre une possibilité de t'en sortir, mais en même temps, tu sais que cette possibilité, elle n'est pas la même pour tout le monde. Justement parce qu'on n'a pas les mêmes parents, en fait, finalement, tout simplement. Donc, on n'a pas le même milieu familial. Et en même temps, si tu as la chance de trouver ta place à l'école, et là encore, trouver sa place à l'école, ça sous-entend plein de choses, en fait. Ça sous-entend bah, être dans une école où il y a des moyens qui sont mis pour que tu puisses réussir. Ça sous-entend avoir un environnement familial, amical, qui croit en toi dans ce que tu veux faire par rapport à ça. Les chances, elles sont là, mais elles sont là avec plein de conditions, en fait, finalement. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir assez de conditions pour pouvoir trouver ma place à l'école.
Donc, plus tu continues les études loin, et moins il y a de personnes de cette génération d'immigrés, en fait. Moins il y a d'immigrés, en fait. Plus tu te retrouves entre blancs privilégiés, hein, faut le dire. Parce qu'ils ont de meilleures conditions pour arriver, en fait, à être dans des écoles de commerce, que ce soit l'argent ou les conditions sociales et culturelles. Et donc plus tu te retrouves en minorité, et le fait d'être minoritaire fait que, je pense que c'est comme une femme parmi les hommes, t'as l'impression de devoir prouver plus, parce que tu dois prouver ta place, parce que qu'est-ce que tu fais là comme t'es pas comme les autres. En fait, t'as une place de minorité, et tu te dis que vu que tu es différent des autres, t'es un peu le mouton noir, en fait. Et donc, pour pas être le mouton noir, il faut que tu sois un peu plus la star, et que t'aies des bonnes notes, que t'aies ta place. Prouver ta place, en fait, plus que les autres. Par contre, personne me l'a jamais dit, je sais même pas si les gens le pensent, mais c'est vrai que tu l'intériorises. Je pense que je l'intériorise. Ce genre de pression sociale.
Et en fait, à partir du moment où tu rentres chez toi, eh ben, on est chacun dans son environnement et on n'a pas les mêmes chances avec cet environnement. Il y a des personnes qui vont avoir une chambre séparée avec voilà, un bureau et tout ce qu'il faut. Il y a des personnes qui vont être obligées de faire leurs devoirs dans un coin et puis sur un bout de table.
Par exemple, quand j'étais en cabinet d'avocat, bah, tu vois... C'est des personnes qui sont soit enfants d'avocats, enfants de médecins, enfants de chefs d'entreprise, qui réussissent et qui sont brillants, hein, et qui sont très sympathiques aussi. Enfin, j'ai vraiment rien contre les avocats, j'en étais une. Mais c'est vrai que j'étais la seule enfant d'immigré. Je l'avais jamais vue comme ça. Et je m'en suis rendu compte le jour où on a embauché une stagiaire qui était aussi enfant d'immigré. Et en fait, toutes les deux, on a eu une ascension sociale, en fait, différente de nos parents. Et du coup, je pense qu'on voyait notre métier vraiment de manière différente. On avait l'impression d'avoir une chance, en fait, d'être là. On était vraiment trop fiers. Tu vois, le jour où j'ai porté ma robe, que j'ai prêté serment au palais de justice, mais j'en pouvais plus.
Et de mon expérience, de la manière dont j'ai grandi... Parce que rétrospectivement, en fait, je me souviens pas de la manière dont je faisais mes devoirs. Je me demande encore comment est-ce que je faisais mes devoirs, en fait. Parce que même en CP, t'as quand même des petits devoirs, recopier des lettres, etc. Et je sais pas, du coup, j'ai pas le souvenir. Mais du coup, je sais que je l'ai fait. Donc, je me dis, waouh. Si je revoyais Saha qui avait... entre 5 et 6 ans, je lui dirais, bah, continue, en fait. Continue et le meilleur t'attend, en fait.
Et sinon, l'épanouissement personnel, c'est d'arriver avec chacune des personnes, que ce soit tes proches, tes amis ou ta famille, de créer un lien très fort et de le maintenir, parce que c'est du travail de tous les jours. Moi, mes parents habitent en Thaïlande aujourd'hui. Mes deux frères habitent en Chine. On se voit pas, mais il faut essayer de construire et de maintenir ce lien, même si on a toujours été proches. Il suffit de 2, 3 mois, 6 mois où on se néglige et ça peut un peu dégrader les relations. Donc pour moi, c'est avoir des bonnes relations que tu maintiens dans le temps pour être épanoui. C'est ça la réussite.
C'est surtout, je pense aussi, le fait d'être enfant d'immigré qui te pousse à vouloir le meilleur pour toi, pour pouvoir donner le meilleur aux personnes qui t'ont permis d'arriver où tu es, en fait.